Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Sans même penser à ce que nous disons, au contraire, Seigneur. Au contraire, c'est un cri de joie, c'est un cri de victoire, c'est un cri d'espérance. Oh mon Dieu, c'est une réalité, j'entrerai dans le saint lieu. Ce saint lieu où le sacrificateur, souverain sacrificateur, ne pouvait rentrer qu'une fois l'an avec le sacrifice d'une victime pour ses péchés et pour ceux du peuple. Seigneur, je rentrerai purifié, car le sacrifice a déjà été offert pour moi. Je rentrerai, car toi tu m'as ouvert la porte et tu as enlevé la séparation. Je rentrerai dans le saint lieu et je verrai le roi sur son trône. Je verrai le roi sur son trône. Celui qui nous a tant aimés, c'est avec espérance, avec amour, avec joie que je jetterai ma couronne à ses pieds et que je me prosternerai devant lui. Oui, Seigneur, je veux fléchir les genoux devant toi. Toi qui m'as aimé alors que je n'étais pas aimable. Toi, Seigneur, qui as souffert pour moi alors que j'étais indifférent. Alors même que je n'existais pas encore, tu avais déjà payé ma rançon. Seigneur mon Dieu, tu savais qu'un jour il y aurait cet homme qui vit vrai et qui serait toujours un rebelle comme tous. Et pour lui, tu es mort aussi, Seigneur, comme pour chacun d'entre nous avant que nous existions, Seigneur. Merci. Oui, Seigneur, nous entrerons dans le saint lieu et nous attendons cette heure. Bientôt, oui, bientôt, nous verrons le Seigneur. Sanctifie ta parole pour nous maintenant. Enseigne-nous, Seigneur, et pendant que le temps qui reste pour nous sur cette terre, que nous puissions grandir et mieux comprendre encore et utiliser ce que tu nous enseignes pour attirer les autres à toi. Jésus, que ton image soit vue en nous. Tu es bon, Seigneur. Ces derniers dimanches, avant nos visiteurs qui nous ont fait beaucoup de bien, nous avons commencé à introduire les 10 commandements. Les 10 commandements. Après cette introduction que nous avons eue, nous allons étudier un après un le corps du sujet, chacun de ses commandements à part. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour rien. Lorsque Dieu s'exprime, il dit des choses sensées. Souvenons-nous de cela, mes frères, car aujourd'hui, c'est devenu une mode que des gens disent « Dieu m'a parlé » et qui, soi-disant par l'Esprit, disent des choses. Et quand on les écoute, on se dit vraiment « Dieu, il aurait mieux fait d'aller à l'université. » C'est vrai, c'est vrai. Faisons attention. Je suis en train de relire pour moi-même actuellement le livre du prophète Jérémie, chapitre après chapitre, et quelques livres qui s'y rapportent. Et ceci me touche jusqu'au fond de mon âme. Et je vois qu'en effet, lorsque Dieu a parlé à travers son prophète, il disait des choses absolument sensées, des choses qui révélaient les secrets les plus cachés. Lorsque Dieu parle, frères et sœurs, le monde se tait. Lorsque Dieu parle, frères et sœurs, le monde tremble. Ne jouons pas à prétendre que Dieu parle par notre bouche quand il ne parle pas. Lisez ce qu'il dit des faux prophètes qui ont séduit Jérusalem du temps de Jérémie, qui prophétisaient des mensonges. Ils ouvraient la bouche sans que Dieu n'ait jamais rien mis dans leur bouche. Et ils prenaient sur eux-mêmes de parler au nom de l'Éternel. Et ce n'était que l'effet de l'imagination personnelle, d'une recherche d'une gloire personnelle. Ce n'était que des paroles peut-être inspirées par Satan et par les mauvais esprits, ce qui est encore bien plus grave. C'était en tout cas des sottises, des bêtises, des choses qui contribuaient à à faire dormir le peuple de Dieu, à dire tout est bien, peu importe ce que l'on fait, il n'y aura pas de conséquences, Dieu est amour, on peut pécher, il pardonnera toujours. Eh bien non, mes frères, ses commandements demeurent, sa parole demeure, ses commandements n'ont pas passé. Ce qu'il a dit se passera. Et c'est très important quand Dieu parle. C'est très important et nous devons écouter. Ne soyons pas si légers pour prétendre parler au nom de Dieu quand ce n'est jamais Dieu qui a mis quoi que ce soit dans notre bouche. Frères et sœurs, nous serons jugés pour chacune de nos paroles. Les paroles que nous prononçons se trouvent quelque part dans l'espace. On a découvert qu'une parole, que quelque chose, un son quelconque, ne se perd jamais. Et ne se perd jamais. Et on a découvert, par la science, qu'on peut, sans y être parvenu encore, mais il y a la possibilité de rappeler les paroles qui ont été prononcées un jour, une fois, il y a 5 ans, il y a 10 ans, que sais-je. Nous sommes loin d'avoir sondé tous les mystères de la nature, de ce que Dieu a créé. Nous sommes loin d'avoir sondé toutes ses œuvres. Et pour Dieu, c'est peu de choses de ramener tout ce que nous avons dit en son nom. En tout cas, je me prêche à moi-même. Sagesse, intelligence qui vient d'en haut. C'est ça que nous voulons, inspiration de l'esprit. C'est ça que nous voulons, motivation réelle et juste. Afin que, si Dieu parle à travers nous, ses serviteurs, que ce soit véritablement ses paroles à lui. Nous avons vu l'introduction aux 10 commandements ces derniers dimanches. Ici, nous allons relire Exode 20, versets 1 à 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Dieu prononça ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Celui qui t'a fait sortir de la maison de servitude, du pays d'Égypte, du pays de l'esclavage, du pays de l'oppression, du pays de la violence, du pays du malheur, du pays du péché. C'est lui. Je t'ai fait sortir. Maintenant, le premier commandement, le tout premier. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Voilà le premier commandement. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Vous voyez, là, nous avons le corps des 10 commandements et nous commençons à les annoncer, à les étudier les uns après les autres. Et ils ont un ordre choisi et voulu par Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà ce qu'il dit. Tout commence par lui. Tout commence par lui-même, par Dieu. Dieu est éternel. Dieu est partout. Dieu est le centre de tout. Dieu possède tout. Il a tout fait. Il connaît tout. Il n'y a rien qu'il ignore. Il remplit l'univers. Il est ici ce matin, mais il est là-bas aussi ce matin. Il est ici ce matin, mais il est là-bas. À minuit de l'autre côté du monde. Rien ne lui échappe. Il connaît les machinations des méchants. Il connaît les cœurs de tous ceux qui sont révoltés contre lui. Il connaît tout, les pensées des cœurs. On ne peut pas le tromper. Il connaît même le jour de la naissance de chacun et la date de la mort de chacun. Il connaît même le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Nous ne pouvons avoir qu'une estimation en calculant tant de cheveux, tant de racines de cheveux par centimètre carré ou bien par millimètre carré et on multiplie par la surface, on a une estimation. Mais Dieu ne marche pas avec des estimations. Dieu connaît tout. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Quand on sonde l'espace, on voit les milliers de terres, de planètes, d'étoiles, extraordinaires. Et plus la science avance, plus on invente des outils pour pouvoir sonder l'espace, le voir, des radiotélescopes et tout ce que vous voulez. et des télescopes qui voyagent dans l'espace autour de la Terre comme des satellites, qui nous envoient des images extraordinaires, incroyables, et encore, on n'arrive pas au bout de l'univers. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Dieu qui tient tout et c'est Dieu qui fait tout. Et quand je regarde à travers le télescope cette étoile qui est là, eh bien, je peux vous dire avec certitude, je la vois là, mais en réalité, elle n'est plus là depuis des millions d'années. Elle est déjà partie là-bas. C'est seulement la lumière qui est en retard. Mais c'est vrai. Tout est relatif. L'étoile que vous voyez là, elle n'est plus là. Elle est quelque part là-bas. Elle est tellement loin. 400 000 km à la seconde. Voilà la vitesse de la lumière. Mais la distance est tellement grande que quand je revois là, elle est déjà là-bas. Parce que le temps qui s'est écoulé est énorme. Voilà Dieu! Rien que quand je considère ses œuvres, les œuvres de ses mains, je le vois et je me prosterne et j'adore. Dieu est éternel. Dieu n'a pas de commencement et Dieu n'a pas de fin. Dieu remplit tout. Avec tout ce que je dis de Dieu, quelle compréhension je puis avoir, moi, vers de terre de Dieu? Quelle compréhension! Vague! Il remplit tout, il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Il a tout créé. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Comment puis-je me le représenter? Un grand problème. On l'a représenté comme un magnifique vieillard avec des grandes barbes blanches. Tout cela, c'est fantaisiste, bien sûr. Il est éternel. Il est partout. Le centre de tout, possédant tout. La Bible commence par Dieu. Lisez Genèse 1:1. Au commencement, Dieu. Voilà les premières paroles. Au commencement, Dieu. Pas étonnant que ces 10 commandements commencent par Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et la Bible finit aussi avec Dieu. Les dernières paroles d'Apocalypse 22:21. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Qui est Jésus? Jésus est Dieu! Mais Dieu qui s'est mis à notre niveau. Dieu qui a voulu se faire comprendre. Dieu qui a voulu se donner une forme. Dieu qui a voulu s'abaisser. Pourquoi? Il sait que nous sommes incapables de le saisir. Tout ce que je dis de Dieu, dans ce que je viens de dire, vient de l'Ancien Testament. Cette révélation est venue graduellement à travers toute la Bible, et la Bible n'a pas été fermée que jusqu'à ce que Dieu se soit identifié à nous, et que jusqu'à ce que ce Dieu ait manifesté sa grâce envers les hommes. Et la grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même. Que la grâce du Seigneur Jésus... Ah oui, Seigneur Jésus, je vois. C'est celui qui a marché ici-bas sur cette terre. On a écrit à son sujet. Il a touché les malades. Il a pleuré au tombeau de Lazare, Jésus. Oui, c'est vrai, la Bible nous en parle. Oui, je peux me le représenter, Jésus, un homme bon, juste, plein d'amour, qui a fermé sa bouche alors qu'on l'accusait injustement, qui a accepté les coups, les crachats, qui ne s'est pas révolté, mais qui a béni ses ennemis. Jésus, oui, oui, je comprends bien. Mais quel amour il a manifesté. Quel amour, quelle compassion, ce Jésus. Vraiment, c'est extraordinaire. Et il a accepté, lui qui était sans péché, de mourir, accusé injustement. Mais ce Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Ce Jésus, après 3 jours, il est ressuscité. Il est ressuscité, il a apparu à tant de ses disciples. Et c'est devenu un fait historique. Un fait historique que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Qui est Jésus? C'est le Dieu qui a dit, au commencement, Dieu créa. C'est ce que nous dit Jean. C'est ce que nous explique Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole devint chair, et elle habita parmi nous. Ô Seigneur, pleine de grâce et pleine de vérité, la parole, la révélation divine, Dieu qui se manifeste en notre faveur. Oui, vous voyez, il est toujours le premier. Il est toujours celui qui domine. Il est toujours celui qui est tout près de nous. Jésus, c'est Dieu en chair. Dieu révélé à notre niveau. Dieu homme incarné. Jésus, il est le Dieu de la grâce. La Bible se clôture avec la grâce. Merci Seigneur. Je suis heureux de ce que nous vivions dans les temps de la grâce. C'est un privilège pour chacun de nous. Nous avons plus de privilèges que les autres. Les autres ont vécu du temps de la loi. Ce n'est pas que la grâce n'agissait pas alors, nous l'avons vu, elle agissait. Car aucun d'eux n'aurait pu vivre. Mais la révélation que nous avons de la grâce a été personnifiée dans Jésus-Christ le Sauveur. Frères, c'est beaucoup plus facile pour nous de comprendre, de saisir aujourd'hui que pour ceux du passé. Nous sommes des privilégiés. Profitons de ce que Dieu nous donne. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. S'il est éternel, pourquoi commencement et pourquoi fin? Oui, commencement de la création, fin de la création physique, de la création matérielle. Le premier en tout. Place qui lui est disputée, voilà. Cette place d'être le premier en tout, le chef au-dessus de tout, lui est disputé par une créature qui s'appelle le contradicteur, le calomniateur, l'adversaire, Satan, le diable, depuis sa chute avant Éden. Dieu connaissant ce qu'il connaissait, Dieu voyant le futur tel qu'il le voyait, car rien n'est inconnu de lui avant que le monde fût. Jésus était déjà immolé. Pourquoi donc a-t-il poursuivi son plan? Il y avait un plan de toute éternité. Ce Dieu agit dans l'éternité. Il ne compte pas le nombre des années. Si ça lui prend 10 millions d'années, il prendra 10 millions d'années. C'est quoi pour lui? Pour nous, c'est beaucoup. Pour lui, c'est quelques secondes. Il a vu. Il a prévu. Il savait. Il a poursuivi sa route. Ce n'est pas un Dieu qui va changer de direction pour accommoder les choses à sa faveur. Il a tracé son plan, il poursuivra son plan. Quoi que tu fasses, quoi que Satan fasse, quoi que les hommes disent, qui sommes-nous pour dire quoi que ce soit à ce Dieu-là? Il semble que certaines fois tout est contraire. Croyez-moi, tout est selon un plan. Et tout contribue à ce plan. Il est le premier. Il est le seul. Satan a disputé son autorité. Il dispute cette autorité jusque dans le cœur des hommes aujourd'hui. Ne le savait-il pas, ce Dieu? Bien sûr qu'il le savait. Je ne peux pas expliquer le pourquoi et le comment. Je ne peux pas expliquer la raison pour laquelle il a poursuivi son plan. Mais Dieu a des raisons très valables. Pourquoi a-t-il fallu, alors qu'il le savait, que son fils Jésus-Christ meure, que lui-même, prenant la forme d'un homme, meure sur la croix? Pourquoi? Je ne le saurai que dans l'éternité. Mais père, frère, sœur, s'il a fait de telles choses, que sera sa gloire? Lorsqu'enfin l'ennemi sera mis sous les pieds, que sera sa gloire? Il poursuit un but, et quand le but sera arrivé, que sera-ce? Savez-vous qui veut nous rendre participants à ce but? C'est pourquoi il dit dans son premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le premier, je suis le seul. Tout a été créé par moi. Je suis la source de la vie. Personne d'autre que moi ne peut donner la vie ou créer la vie. Il est l'unique. Dans notre monde, il y a cette hantise des hommes et des femmes d'être les premiers. Et il y a une constante compétition pour être le premier dans beaucoup de domaines. La première place est celle du succès. Le premier aux études. Le premier, celui qui a les meilleurs résultats. Le premier dans les affaires. N'est-ce pas cela? Il y a une compétition dans notre monde continuelle pour être le premier. Pourquoi c'est la place du succès? C'est celle qui attire l'attention. C'est la place de la gloire, purement humaine bien sûr, mais de la gloire quand même. C'est la place de la popularité. C'est la place de la richesse, être le premier. C'est une place convoitée par tous les sportifs qui poussent à l'extrême limite les capacités humaines, qui vont même à se droguer pour pouvoir être le premier, quitte à payer les séquelles des drogues qu'ils ont prises plus tard. On fait tout pour être le premier dans les sports, le premier dans les spectacles, le premier dans la musique. Le premier dans la beauté, Miss Afrique, Miss France, Miss Amérique. Les premiers dans la production industrielle, ces grandes usines, tant de milliers de voitures par jour qui sortent. On envahit le monde de ces produits et on se vante d'être les premiers, les rois du pétrole. Les rois de la voiture, les rois de toutes sortes de choses, ceci veut dire, on était le premier, et parce qu'on était le premier, on a le plus vendu, et parce qu'on a le plus vendu, on est les plus riches. Et puis, les premiers, il y a la hantise dans notre monde aujourd'hui, de la première place. La hantise, et le désir, ça, c'est le succès. Succès éphémère. Mais c'est un peu une concurrence que l'on veut faire à Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Là, Dieu rappelle, je suis l'Éternel ton Dieu. Et ensuite il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Souviens-toi, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu l'ignores, ou tu le rejettes, ou tu ne le veux pas, ou tu, je ne sais pas, mais je suis l'Éternel ton Dieu. Quoi que tu puisses dire, il n'y en a point d'autres qui t'ont créé si ce n'est moi. Il n'y a pas un individu dans cette salle, il n'y a pas un individu qui écoute à travers les médias qui puisse dire qu'il a été créé par autre chose. Parce que s'il avait été créé par autre chose, peut-être qu'il aurait des cornes sur la tête. S'il avait été créé par autre chose, peut-être qu'il y aurait simplement un œil au milieu de la tête. Mais Dieu a créé l'homme selon un type, un prototype que nous voyons en Éden, et ce prototype a été bon. Et c'est pourquoi, d'après ce prototype, toute l'humanité a été faite. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Sachez que chacun de vous personnellement, vous êtes une créature de Dieu. C'est Dieu qui vous a modelé. Et c'est lui qui a mis les lois de la procréation dans le ventre de maman et dans la capacité de papa afin que tous les deux ensemble fassent que vous soyez ce que vous êtes. Ne méprisez pas la vie. Ne gaspillez pas ce potentiel de procréation que Dieu vous a donné pour des pseudo-plaisirs qui détruisent le corps et qui détruisent l'âme. Respectez la vie vient de Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le premier, je suis le seul, car il n'y a qu'un Dieu, et c'est moi qui suis ce Dieu-là. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Lorsqu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on parle d'un seul Dieu. Ce Dieu est libre de se manifester comme il entend, Mais qui suis-je? Même si j'ai des doctorats en théologie les plus élevés, qui suis-je pour expliquer Dieu? Qui suis-je? Selon la logique humaine, c'est plein d'illogismes si on explique Dieu. C'est pas vrai? Pourquoi il ne peut pas être expliqué à la normale du standard du raisonnement humain sur la terre? Il est un. Le Dieu, par excellence, est le Dieu qui n'a jamais été créé. Et qui, lui-même, et qui est lui-même le Créateur. Il est le Créateur. Ces choses que nous avons faites, ventilateur, les lumières, les poteaux de cette église, le ciment, le béton, le fer, toutes ces choses-là sont tirées de ce que Dieu a fait. Rien n'a été fait par l'homme. L'homme l'a simplement transformé pour le soumettre à sa volonté. Mais c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Il est la source de la vie et qui par conséquent tient toutes les vies dans ses mains. Il est celui qui est le plus fort. Il est celui qui est le plus puissant. Il est le plus sage. Il n'y en a qu'un seul dans l'univers. Qu'un seul dans l'univers. Pas d'autre. Deutéronome 6, 4, il est écrit. Écoute Israël, l'Éternel. Notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Les autres qui se disent Dieu, ont été créés. Ils ont usurpé une qualité, une position qui n'est pas la leur. Quoiqu'ils portent le nom de Dieu, c'est un titre auquel ils n'ont pas le droit. Et si vous vous attachez à eux, vous péchez et vous attirez la malédiction sur vous. Ces dieux vous trompent. Ils ne sont pas des dieux. Sachons bien que le Dieu qui a fait sortir Israël de la maison d'Égypte, de la maison de servitude, est le grand premier de l'univers. Il n'y en a point d'autre. Ceux qui disent qu'une telle affirmation est une chose qui représente quand même de l'audace de se présenter comme tel, c'est qu'ils n'ont jamais connu le vrai Dieu. Et ils se laissent piéger par les faux dieux. Non, ce n'est pas une prétention démesurée. Mes frères, c'est une réalité et c'est une évidence. Il est le seul. Tous les autres sont des menteurs. Regardez quelques versets pris dans la Bible. Psaume 86, 10. Tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Le psaume 136 encore, verset 4. Celui qui seul fait de grandes choses, de grands prodiges. Psaume 48, 13. Son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Ésaïe 37, 15. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Là, nous avons que quelques versets pris au hasard, mais il y en a bien plus encore. Il est le seul, il est le premier, il est le roi de tous les royaumes de la terre. Les royaumes de la terre le rejettent, mais il est quand même roi. Le premier, oui, ce n'est pas une prétention démesurée. C'est une évidence. Il est le premier, il est l'unique, il est le seul, il est Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Et il ne tolère aucun rival. Ce Dieu unique nous veut pour lui. N'est-ce pas extraordinaire? Ce Dieu puissant, ce Dieu éternel, ce Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin, il nous veut pour lui. Nous, si petits, si insignifiants, si faibles, il nous veut sans partage. Il est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas nous perdre, ni nous partager avec qui que ce soit. Pas de mélange avec lui. Pas de tolérance sentimentale de quelque forme de péché. Pas de compromis. Mais l'exclusivité. Voilà ce que ce Dieu veut. Il veut nous posséder exclusivement. Il ne veut pas posséder une partie de nous seulement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Et ce Dieu qui dit cela dit, je te veux à moi. Je ne veux pas moins que ton être entier. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. T'es-tu livré à ce Dieu jaloux, exclusif? Tous ceux qui se disent Dieu sont des faux dieux. Beaucoup de gens sont vis-à-vis de ce Dieu puissant et unique comme des athées inavoués. Ils l'invoquent seulement quand ils sont dans le besoin. À part cela, ils n'en ont pas besoin. Ils le considèrent comme étant à leur service, à leur disposition. Ils font ce qu'ils veulent, ils vivent comme ils veulent, en violant ses commandements et sa loi, en faisant plaisir à leur chair telle qu'ils le désirent, dans la débauche. Et ils pensent qu'ils peuvent s'en servir à leur fantaisie. Eh bien, sachez que ça, c'est une aberration. Que de penser que nous pouvons utiliser le grand Dieu de l'univers à notre guise. C'est une aberration, c'est une sottise. La grande connaissance de la science aujourd'hui fait que les hommes sont devenus terriblement rationalistes. Autrefois, les grands-pères d'autrefois, quand ils voyaient un éclair, ils pensaient, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Ils pensaient que c'était des puissances là-haut qui se battaient. Quand ils voyaient quelqu'un qui avait la maladie, oh, ils pensaient que c'était un esprit qui faisait ceci ou cela. Ils ne pouvaient pas expliquer. Quand ils voyaient une éclipse de lune ou une éclipse de soleil, ils étaient effrayés. Est-ce que le soleil va revenir? Est-ce que la lune va revenir? Oh, les dieux sont fâchés. Mais aujourd'hui, la connaissance a tellement augmenté. La connaissance des choses de l'univers et la compréhension des lois de la nature avec toutes les explications logiques et réelles qui en découlent fait que les hommes veulent aujourd'hui tout expliquer, tout rationaliser. Par exemple, dernièrement, toutes ces inondations qu'il y a eu en Europe, ces inondations qu'il y a maintenant au Mozambique. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais les hommes vont vous expliquer ça. Du reste, ils le font déjà. Voilà tel climat, tel courant, telle époque, tel temps, patati patata. Tout est logique et explicable. On n'a pas besoin de Dieu. Ils deviennent complètement incrédules envers ce qu'ils ne peuvent expliquer selon leur logique. Et comme on ne peut pas expliquer Dieu, ils le rejettent. Ils veulent mettre Dieu dans une éprouvette, dans un laboratoire. Pauvre fou. Ils veulent expliquer les choses selon leur logique. Ils ne peuvent pas voir Dieu, donc il n'existe pas. Mais pardon, en attendant, ils croient aux ondes de radio. Mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. Elles sont invisibles. Ils croient à l'électricité. Mais l'électricité en elle-même n'est pas visible. Elle est visible que quand le négatif et le positif, passe dans ce petit filament et devient incandescent. Là, ça devient concret. Mais autrement, ils y croient, même qu'ils ne le voient pas. Ils croient aux rayons cosmiques de l'espace. Ils croient aux rayons laser. Et ils l'expliquent et ils essayent de le maîtriser. Ils croient à l'atome, mais l'atome est invisible. Qui a vu un atome? Cet homme n'existe pas. Et pourtant, ils y croient. Tout simplement parce qu'ils ont pu voir sur des plaques photographiques, en provoquant des accélérateurs de particules, sont là et arrivent sur cette plaque photographique et on voit le résultat. Donc, il y a quelque chose. J'explique cela de façon simpliste et pourtant le principe est là. Et ils voient des traces et ils voient comment ils se comportent, à tel point qu'ils donnent des noms à ce qu'ils n'ont jamais vu. Le proton, le neutron, l'électron. Ils donnent des noms à ceux qui n'ont jamais vu. Le magnétisme. Mais le magnétisme, tout le monde en parle. Dans les laboratoires, on l'utilise le magnétisme, dans les moteurs électriques. On l'utilise à une quantité de niveaux. Mais qui a vu le magnétisme? Qui? Chose totalement invisible. Et pourtant qui possède une grande énergie que l'homme exploite. Mais il rejette Dieu. Il rejette les valeurs spirituelles. Il rejette les valeurs de l'esprit. Il rejette pourquoi? Où est Dieu? On ne le voit pas. Comment on ne le voit pas? On le voit dans ses œuvres. Tu vois les œuvres de l'électricité dans la lampe. Tu vois les œuvres des neutrons, des protons et de toutes ces histoires-là. Dans leurs œuvres, tu les domestiques, tu les utilises, mais tu ne les vois pas. Est-ce que cela veut dire qu'il n'existe pas? Mais oui, ça existe puisque tu l'emploies. Tu vois Dieu dans ses œuvres, ouvre les yeux. Un jour, tu le verras face à face. Ce jour-là, tu pourras le voir. Mais aujourd'hui, tu ne peux le voir et vivre. Dieu est une réalité. Combien plus grande et plus importante que le physique. Mais les hommes ne veulent pas y croire car ils ne le voient pas. Ils ne peuvent le rationaliser. Ils ne peuvent le ramener à une équation mathématique. Ils ne peuvent le manipuler dans une éprouvette de laboratoire. Ils ne peuvent le prouver à la logique du raisonnement philosophique ou d'une démonstration philosophique ou scientifique. Alors, il n'existe pas. Romains 1, 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ce Dieu existe et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, les hommes considèrent et sondent quelque peu les merveilles de la création, mais doutent en leur auteur, malheureux. Doutent en celui qui est la source. Ce Dieu-là est ignoré. Comme n'existant pas, comme étant une valeur abstraite, une idée philosophique pour faire plaisir aux simples, aux pauvres. Ésaïe 44 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta jeunesse. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. » Beaucoup ont le sens de l'existence de Dieu, mais pour eux, il est devenu comme perdu dans les étoiles. Tellement loin et inaccessible. Alors, ils prennent d'autres dieux. Et leur dieu à eux, c'est l'argent. Leur dieu à eux, c'est le sexe. Le dieu à eux, c'est le pouvoir dans n'importe quel domaine. Leur Dieu à eux, c'est ce qui est la chose principale de leur vie. Ce sont devenus des idolâtres. Des idolâtres. Qui est le premier dans ta vie? Qui est le maître en toi? Qui reconnais-tu comme ayant l'autorité? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ce Dieu s'est manifesté à travers Jésus-Christ. C'est la connaissance de la grâce de Dieu. Il est difficile de saisir la portée de ce commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi ne pas avoir d'autre Dieu que lui? Pourquoi ne pas considérer autre chose que lui comme étant un Dieu? Et se le fabriquer? Eh bien, les autres dieux sont faux et ne sont pas des dieux. Acceptes-tu d'être trompé? Ensuite, le Dieu vrai est le seul qui enlève et pardonne les péchés, le seul qui aime le pécheur, le seul qui sauve gratuitement et qui manifeste sa grâce envers les coupables. Il n'y en a point d'autre que lui qui fasse ce travail-là. Il est le seul qui donne la vie éternelle. Parlez-moi, montrez-moi seulement une autre religion dans le monde, quelle qu'elle soit, qui prêche le pardon des péchés, la vie éternelle, la vie dans la gloire, et qui donne l'assurance. Une autre religion du monde qui me parle de quelqu'un qui a pris les péchés et la condamnation de tous, sans exception, et qui ouvre la porte à ceux qui acceptent d'y entrer. Il n'y en a point d'autre. Il est le seul. Ce Dieu fidèle garde son alliance, est-il écrit dans Deutéronome 7, verset 9, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Il est fidèle, ce Dieu-là. Pourquoi ne veux-tu pas lui être fidèle et le servir comme il doit être servi, en exclusivité? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cette chose que tu places avant Dieu, c'est une idole. Ce moi, cet orgueil personnel que tu places avant Dieu, c'est une idole. Ces passions de la chair que tu sais être mauvaises, mais auxquelles tu te livres, ce sont des idoles qui te dominent. Et cette parole est pour toi. Car tout cela qui te domine, ce sont des faux dieux qui appellent la malédiction dans ta vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce qu'il a fait et ce qu'il fait pour nous nous pousse à nous attacher à lui et à le reconnaître comme le seul Seigneur de notre vie, le premier, l'unique, sa grâce, son amour, son pardon, sa puissance, le prix payé pour nous sauver, lui donne le plein droit à être le premier, car il est l'auteur de tout. Il a le droit d'être le premier et il exige de ses enfants qu'il soit le premier dans leur vie. Quelle tragédie pour ceux qui se laissent abusés par d'autres dieux dans leur vie, d'autres passions, des choses qui font passer avant Dieu. Nous sommes continuellement tentés par les choses secondaires, périssables, que nous faisons passer en priorité dans nos vies. Et nous négligeons les choses principales. Qu'est-il dit dans Matthieu? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. D'abord Dieu, cette parole ne s'adresse pas aux païens, mais s'adresse à ceux qui ont cru. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Premièrement, et tout ce dont vous avez besoin, Dieu dit, je vous le donnerai par-dessus. Tu ne le rechercheras pas, mais c'est Dieu qui te le donnera. Voilà comment ça marche pour celui qui reconnaît que Dieu est le premier, est le seul dans sa vie. Ils recherchent le royaume des cieux en priorité. Et tout ce dont il a besoin, Dieu dit, je te le donnerai. Baissons la tête, s'il vous plaît. Seigneur, nous essayons de nous rappeler ce grand commandement que tu as laissé à ton peuple, Israël, et à nous jusqu'à aujourd'hui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors que tu énonces ces commandements, Seigneur, tu commences par toi-même. Car en effet, c'est toi qui remplis l'univers. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui es à la base de toute la création, de tout ce qui se fait sous le soleil. C'est toi qui as fait le soleil et les étoiles. C'est toi qui as fait la nuit et qui as fait le jour. C'est toi qui as mis l'eau dans la mer et qui as fait jaillir les sources de la terre et les fleuves qui coulent année après année sans jamais s'épuiser. C'est toi qui as fait les vents. C'est toi qui as fait les nuages et les éclairs. C'est toi qui domine le monde et la terre. Ô Dieu de grâce, nous voulons te reconnaître et nous désirons que toi, tu sois le maître dans nos vies. Tu l'as dit encore, recherchez d'abord le royaume des cieux et tout ce dont vous aurez besoin vous sera donné par-dessus. Père céleste, tu sais que nous avons besoin de beaucoup de choses ici-bas sur cette terre pour pouvoir avoir une vie normale, mais tu ne nous as pas dit de les chercher. Tu nous as dit d'abord de chercher le royaume des cieux. Et si nous cherchons le royaume des cieux, et si nous mettons Dieu en premier dans nos vies, alors tu pourvoiras à tous nos besoins. Et tu nous feras même prospérer au-delà de tout ce que nous pouvons penser, parce que nous avons placé Dieu d'abord. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Obéis-tu à ce commandement, qui que tu sois, obéis-tu à ce commandement, je te le demande. Si tu n'obéis pas à ce commandement, lève-toi là où tu te trouves, en signe de repentance. Seigneur, tu n'es pas le premier dans ma vie. Tu n'es pas celui qui vient avant tout. J'ai d'autres intérêts. Est-ce tous ces intérêts qui viennent avant toi, Seigneur, sont des idoles, sont des faux dieux. Pardonne-moi, pardonne-moi. Oui, vous croyez en Dieu, bien sûr. Là n'est pas la question, mais qui est le premier dans votre vie? S'il n'est pas le premier, levez-vous. Levez-vous. Peut-être c'est la coutume qui est en premier. Peut-être c'est l'argent qui est en premier. Peut-être c'est ce que disent les vieux du village que vous écouterez avant les paroles du Dieu vivant. Seigneur Jésus, je t'apporte ces hommes et ces femmes qui se sont levés. Je te prie, Seigneur, de travailler dans leur cœur. Merci de ce qu'ils reconnaissent que dans leur vie, tu n'as pas été le premier. Tu n'as pas été le Dieu qui a occupé toute la place. Mais ils ont servi d'autres dieux, desquels peut-être ils ont honte, d'autres dieux qui les ont séduits. Et tu n'as pas été le premier. Pardonne, Seigneur, je t'en prie. Pardonne et que la vie leur soit donnée et que leur vie soit changée, transformée par ta grâce. Merci, Seigneur. Merci. Reprenez vos places. Nous sommes là pour vous aider. Après le culte, nos conseillers sont à votre disposition. Frères et sœurs, nous devons faire du Dieu que nous adorons le seul de notre vie. Et Seigneur, nous te demandons maintenant de bénir les dîmes et les offrandes. Seigneur, ces dîmes et ces offrandes que nous donnons librement parce que nous avons choisi de te servir et nous voulons soutenir ce travail de proclamation de l'Évangile dans notre pays, dans notre nation. Père, bénis ceux qui donnent maintenant et multiplie, Seigneur, cet argent pour ta gloire, afin que les besoins puissent être répondus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.